Vous écoutez Les Héros Anonymes avec Chantal Doré.
Nous poursuivons nos échanges en vous présentant un autre organisme qui s'assure là, de nous informer et qui, je dirais, va, selon moi, ce qui est le plus important, l'éducation. Parce qu'avec une bonne éducation, il y a beaucoup de situations que les organismes communautaires corrigent qui peut-être ne seraient pas arrivées si l'éducation avait été peut-être au niveau qu'on l'aurait souhaité. Donc, chaque contenu relié à l'éducation, pour moi, est encore plus essentiel, même si tous nos organismes communautaires le sont. Et donc, on discute avec Erika Marayet, qui est la directrice générale d'un organisme qui s'appelle JAM, qui est un acronyme de J'apprends avec mon enfant, et c'est un plaisir de l'avoir en studio avec nous. Bonjour Erika.
Bonjour Chantal.
J'avoue que je ne connaissais pas du tout votre organisme. C'est Catherine qui nous a mis sur la piste de JAM. Comment vous vous situez là, au niveau éducation, au milieu de tous les organismes qu'il y a dans la tranche des 0-12 ans?
Tout d'abord, on fait partie du regroupement des organismes communautaires de lutte au décrochage. On fait partie de ce regroupement-là, mais c'est sûr qu'on a des petites particularités de viser la réussite éducative. La nôtre, c'est vraiment de travailler en approche holistique. En fait, on appelle ça l'écosystémie. Oui. Ça tient compte à la fois de l'enfant, de sa famille et de la communauté dans laquelle il évolue. Je peux vous donner un petit exemple. Donc, par exemple, pour l'enfant, c'est vraiment l'accompagner de façon individuelle afin de développer ses habiletés en lecture, ainsi que de nombreuses compétences transversales qui vont être nécessaires à son cheminement personnel, social et scolaire. Mais on travaille aussi avec la famille. Donc, nos coordonnatrices pédagogiques vont rendre visite à la famille, à leur domicile, et elles vont outiller et soutenir les parents pour leur redonner confiance en leur rôle d'éducateur. Donc, leur rappeler qu'ils ont un très grand rôle dans l'apprentissage de la lecture de leurs enfants, l'apprentissage des langues, notamment le français, comme c'est le cas pour les familles anglophones et allophones au Québec. Et puis aussi, on va vraiment beaucoup travailler aussi dans la communauté. JAM a développé une expertise en le plaisir de lire et aussi l'apprentissage des langues. Donc, on forme, puis on conseille aussi les intervenants communautaires et scolaires en littératie familiale.
Et dites-moi, quand vous allez comme ça dans les familles, vous êtes peut-être parfois, parce que vous parlez d'approche holistique, témoin de situations qui relèvent davantage de l'ordre psychosocial. Comment vous gérez ces situations-là? Parce que j'entends pas, il n'y a pas nécessairement de spécialiste en intervention psychosociale chez JAM. Mm. Est-ce que vous fonctionnez avec des références?
Absolument. Mm. Donc, on travaille vraiment en partenariat avec... on travaille avec la table de concertation Enfance-Famille de Verdun. On travaille avec... on est dans les mêmes locaux que le Centre de pédiatrie sociale Les Petits Renards à Verdun.
D'accord.
On travaille avec les CIUS, etc. Donc, c'est certain que quand il y a des situations comme ça, c'est certain qu'on va chercher de l'aide.
Vous êtes tout près. Donc, le Centre de pédiatrie sociale, est-ce que c'est l'un des points de service de Dr Julien?
Oui,
d'accord.
Je pense, oui.
Oui, on connaît bien son œuvre et son approche effectivement très holistique de considérer tous les points, tous les facteurs qui viennent impacter dans votre cas l'éducation, la capacité d'apprendre, parce que c'est sûr que si on est en proie à des émotions difficiles, c'est difficile au niveau du cerveau de se mettre en mode apprentissage.
Oui, ben c'est certain que nous, notre particularité, là, je réalise que je ne l'ai pas forcément dit, c'est vraiment autour du plaisir de lire, de la lecture.
Oui.
Et donc, nos interventions, en tout cas notre programme phare, s'adresse vraiment aux enfants qui sont au tout début de l'apprentissage de la lecture, donc en première et deuxième année du primaire. Et ces enfants nous sont référés par le milieu scolaire, parce qu'ils ont des difficultés dans l'apprentissage de la lecture. On sait à quel point la lecture est importante. Si on a de la difficulté en lecture, il va y avoir un impact dans toutes les matières scolaires. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment important, la lecture. Et puis, ce que JAM apporte vraiment dans les familles auprès des enfants, c'est le plaisir de lire. Que la lecture, ce n'est pas juste pour l'école. C'est partout dans la vie. Et donc, c'est vraiment d'apporter d'apporter un peu de légèreté dans cet apprentissage de la lecture, particulièrement quand c'est difficile. Parce qu'il y a, dans l'apprentissage de la lecture, ce qu'on veut éviter, c'est ce que moi j'appelle le cercle vicieux, c'est-à-dire c'est difficile, donc ça ne nous donne pas envie de lire, donc on se pratique moins, puis là, on a de plus en plus de retard à rattraper. Ce qu'on vise à JAM, c'est vraiment le cercle vertueux.
Oui.
Donc, on a une expérience très positive de la lecture, donc ça nous donne envie de lire plus, même si c'est pas toujours facile au tout début, mais en
le
accumulant les
se forme.
Exactement, et ça nous donne envie de poursuivre parce que ça prend des efforts et du temps d'apprendre d'apprendre à lire.
Est-ce que vous êtes en partenariat avec la lecture en cadeau?
On suggère
dans les librairies là, d'acheter un livre neuf pour les enfants.
C'est certain que la mission de JAM est de tout. Oui, on veut que les enfants lisent. On veut offrir la lecture
en
cadeau.
Tant mieux s'il y a des...
On le fait. En fait, on le fait lors de fêtes annuelles à la fin de l'année scolaire. On organise des fêtes à laquelle nous on donne la lecture en cadeau et on offre des livres.
Et comment parce qu'on voit, à Canalem, on est une radio, mais on a aussi le volet podcast et on en voit de plus en plus. Est-ce que c'est difficile dans une ère où les jeunes sont de plus en plus sollicités par des contenus audio et vidéo à ramener le plaisir de la lecture simple, où on est dans l'imaginaire, où on peut justement s'imaginer soi-même qui sont les personnages, comment ils sont habillés, dans quoi ils vivent, alors que dans les contenus audio, vidéo, TikTok, Instagram et autres, on n'a pas d'effort justement à faire, mais en même temps, on se prive d'une certaine créativité qu'amène la lecture, d'inventer la vision du personnage.
C'est certain qu'on peut, on peut voir ce qu'on perd, on peut aussi voir ce qu'on gagne dans toute l'arrivée des nouvelles technologies. Il y a beaucoup de bonnes choses, de choses positives dans l'arrivée de ces nouvelles technologies. Je pense que ce qu'on vit, c'est un équilibre et c'est de donner le goût aussi d'essayer toutes sortes de choses et de pas se focaliser juste sur une seule, juste lire sur la tablette, par exemple. Donc, donner une variété d'expériences. Je pense que c'est ça qu'on souhaite pour notre jeunesse.
Même si on est en audio, parfois, on va avoir des sous-titres aussi qui sont ajoutés.
Exactement.
Donc, forcément, on doit pouvoir les décoder parce que l'oreille peut le décoder. Ou sinon, on peut avoir un handicap auditif. D'ailleurs, la mission ici, Canalem, s'appelait la Magnétothèque et c'était basé justement sur pouvoir offrir la lecture aux personnes qui n'étaient pas en mesure de pouvoir le faire elles-mêmes. Donc, on est très sensible à l'importance de la lecture. Vous avez noté la question des personnes immigrantes. Comment votre offre de service s'est adaptée? Parce qu'on pourrait être capable de lire dans notre langue maternelle, mais avoir plus de difficultés à le faire en français.
En fait, je suis vraiment contente que vous ameniez ce point. Il faut en effet faire une grande distinction entre les familles qui arrivent avec un bagage linguistique très riche dans leur propre langue maternelle. C'est certain qu'un enfant qui va arriver d'un autre pays à l'âge de 7-8 ans, s'il sait déjà lire dans sa langue maternelle, il a déjà une très grande longueur d'avance. Et en fait, ce qu'il lui reste à faire, c'est d'apprendre la langue orale pour que la lecture en français lui soit accessible. Parce qu'on ne peut pas forcément lire une langue où on ne va pas reconnaître des mots. Il faut qu'il y ait une petite base quand même de connaître des mots dans la langue.
Donc, à ce moment-là, l'audio aide à apprendre la lecture.
Il faut en effet savoir un minimum, être capable d'interagir un minimum et de reconnaître un certain nombre de mots pour avoir une lecture fluide et intense dans une langue. Par contre, c'est autre chose quand des enfants sont nés dans un endroit où ils parlaient une langue, ou ils sont nés dans un camp de réfugiés où il y avait plusieurs langues qui étaient parlées. Ils n'ont pas été forcément scolarisés dans la langue qu'ils parlaient. Des enfants qui ont vécu des interruptions de scolarité, c'est certain que quand ces enfants ont vécu toutes ces interruptions de scolarité, voire il n'y en avait pas du tout. C'est sûr que la barre est beaucoup, beaucoup plus haute. Mais il y a toujours de l'espoir.
Oui, et parmi les projets, parce que je vais aller peut-être un peu plus, de façon un peu plus détaillée sur vos différents projets, Biblioroule, entre autres, qu'est-ce que c'est?
En fait, le Biblioroule, c'est un tout nouveau projet, et je vous le dis, on l'a sorti la semaine dernière mm-hmm. seulement. C'est un partenariat avec la Fondation Sceaux Saint-Louis, qui est une fondation qui finance beaucoup de projets pour le centre de service scolaire Marguerite Bourgeois, qui mm-hmm. est sur le territoire qu'on dessert.
Et, quel territoire, en passant?
En fait, il y a Verdun, La Salle, La Chine, Ville-Saint-Laurent. Et puis, on est aussi sur le territoire du Sud-Ouest, et ça, c'est mm-hmm. plus le centre de service scolaire de Montréal. Et le Biblioroule, en fait, c'est vraiment l'idée de sortir, d'aller à l'encontre des familles et de leur offrir un endroit enchanteur. Faut le voir, hein. Il est magnifique. Ça a été.
Oui, j'ai vu que vous aviez eu recours à un artiste
oui,
pour les dessins.
De Jacques Goldstein, oui, qui oui, est notre illustrateur officiel depuis 2005, je crois. Et donc, il a dessiné, c'est ça, il a fait de magnifiques dessins qu'on retrouve à l'intérieur et à l'extérieur du Biblioroule. Et c'est une belle bibliothèque, très bien garnie, avec une grande diversité de livres. C'est des livres qui vont refléter la diversité des lecteurs, donc une diversité d'expériences. Il y a des livres où on va parler de parcours migratoire, par exemple, mais aussi la diversité des origines, des langues. On a aussi des livres qui sont bilingues, plurilingues.
Donc, on peut avoir, par exemple, parler une langue. Si on parle, par exemple, d'enfants anglophones, il pourrait y avoir l'anglais et français. Donc, oui. Ça lui permet d'avoir un référent, au moins, de quoi on parle.
Oui, oui. Ben, d'ailleurs, c'est une belle stratégie que vous soulignez ici. Une façon de rentrer dans un livre qui est dans une langue qu'on maîtrise peu. C'est de lire dans cette langue un livre qu'on connaît déjà. Et comme ça, ça nous donne un petit peu plus confiance en nous. On sait déjà de quoi ça parle. Et donc, ça permet d'avoir déjà un outil et une certaine confiance pour aborder ce livre dans une langue avec laquelle on est plus ou moins à l'aise.
L'année dernière, j'ai fait un séjour d'immersion linguistique en espagnol au Pérou. Et c'était l'une de mes tactiques. Je réécoutais des épisodes de séries que j'aime, qui sont assez légères, mais je les écoutais en espagnol, mais je mettais les sous-titres en français aussi pour m'aider un peu.
C'est sûr que ça aide énormément, oui.
Donc, cette biblioroule, comment ça fonctionne? Vous êtes quelques jours à un endroit, quelques jours à un autre?
Oui, alors, étant donné que c'est un projet expérimental,
d'accord.
À la mesure où on est encore en train de ficeler les derniers détails, on va être à Verdun, à l'auditorium de Verdun pendant quelques semaines. Après ça, on va se déplacer un petit peu plus au sud-ouest. Et on va aussi aller à La Salle. Et en fait, toutes les informations sur notre calendrier, les différents parcs où on va se trouver seront sur notre site Internet, jam-montréal.org. En fait, c'est MTL pour montréal.org. Vous pouvez aussi aller sur notre page Facebook qui... C'est JAM, j'apprends avec mon enfant, et puis Instagram, qui est jam.montréal. Donc, choisissez la plateforme que vous préférez, et puis tenez-vous informé
oui.
des différents endroits. Parfois, ça va être le samedi matin, hein, parfois ça va être le vendredi cet été, on va vouloir aller pendant...
Et pourquoi se déplacer? Est-ce que, parce que justement, pour les gens qui ne lisent pas, la bibliothèque peut être... je sais pas, peut-être intrusive ou ça nous fait peur ou ça nous semble peut-être un pas de trop. Alors que là, si vous êtes près d'un parc où, par exemple, les enfants jouent, puis que justement le boss est coloré, il y a quelque chose de ludique, ça nous donne plus envie d'aller voir.
c'est certain que ça, ça fait partie des idées. L'autre, mm-hmm. l'autre idée, c'était vraiment de pouvoir servir des familles qui habitent plus loin des oui. bibliothèques, parce qu'il y a des bibliothèques. On ne peut pas avoir une bibliothèque non. à chaque coin de rue non plus. Donc, oui. C'était vraiment d'aller rejoindre les personnes pour qui c'est, ça nécessite plus, plus d'efforts pour se rendre dans une bibliothèque. Mais vous avez tout à fait raison, rendre les livres beaucoup plus accessibles.
Mmh. Et le fait que ça soit justement par un autobus, il y a quelque chose de plus convivial aussi. Mmh. Donc, les personnes, j'imagine, de votre organisme sont là pour aller susciter la curiosité, viens faire un tour, viens voir ce qu'on a.
Absolument, absolument. Ouais. Donc, on a une animatrice qui sera là, une coordinatrice pédagogique. Moi aussi, j'y serai, parce que oui. j'ai vraiment très, très hâte.
Donc, oui, ça paraît, on sent votre passion. On est en audio, mais il y a dans ses yeux à Erika là, une belle passion pour son métier. Enfin, c'est ce que je constate.
Oui, vous avez raison.
Et vous êtes une équipe de combien de personnes?
On est 9 en tout. On est, en fait, j'allais dire on est une petite équipe parce qu'il y a la personne d'Éducalois qui était juste avant nous, mais on est une équipe qui a énormément grandi au fil des 33 années d'existence. Ça a commencé, les personnes étaient juste 3. Donc, 9, c'est une grande équipe.
Oui, ouais, c'est 3 fois plus.
Exactement. Donc, on a vraiment grandi avec les années.
Est-ce que vous avez des bénévoles ou désirez en avoir?
Ben absolument. En fait, les bénévoles, c'est la force vive de nos activités parce que les enfants sont jumelés, ils sont jumelés avec un bénévole. On compte plus d'une centaine de bénévoles.
Une centaine de bénévoles.
Qui vont chaque semaine au domicile de l'enfant avec lequel ils sont jumelés. Donc, c'est certain que ces bénévoles-là sont très, très, très précieux.
Donc, on peut lancer un appel si certains sont absolument. Passionnés de lecture, veulent faire connaître des personnes retraitées, par exemple.
Oui, oui. oui on est surpris aussi de constater la variété des profils mm-hmm. de nos bénévoles. On a des bénévoles qui ont à peine 18 ans
merveilleux.
Qui ont déjà la piqûre du bénévolat. Il y a aussi des jeunes professionnels qui veulent donner de leur temps et qui s'impliquent auprès de nous. Donc, c'est assez fascinant de voir cette belle implication de la communauté.
Erika, on fait une courte pause et on continue notre entretien dans quelques instants.
Merci.
De retour en studio pour ce dernier bloc des Héros anonymes, nous sommes toujours avec Erika Marayet, directrice générale de JAM, J'apprends avec mon enfant. Et je disais avant cette courte pause que Erika semblait passionnée. Donc, d'où vous vient cette passion? Quel est votre parcours, Erika?
Ben, en fait, quand j'étais étudiante, j'aimais beaucoup l'idée des jumelages. J'ai même voulu faire une maîtrise sur les jumelages linguistiques.
Ah, d'accord.
Puis j'ai découvert JAM par hasard. En fait, je voulais être bénévole. Mm-hmm. Par contre, j'habitais vraiment trop loin. Là, ça me prenait une heure et demie pour m'y rendre à mon jumelage. Donc, j'ai pas pu le faire. Mais vraiment, ce qui m'a plu, c'était la possibilité d'avoir un impact direct auprès d'un enfant, de construire quelque chose sur le long terme. Parce que quand on devient bénévole à JAM, ben, faut s'investir pour au moins 6 mois et puis idéalement 1 an, voire 2 ans avec le même enfant. Puis moi,
ça crée des liens aussi.
Exactement. C'est magnifique.
J'imagine avec la confiance de l'enfant, On élimine une barrière peut-être à la lecture.
Mm-hmm, exactement. Mm-hmm. Puis je crois vraiment beaucoup à la puissance des liens sociaux positifs.
Oui, absolument.
Donc, j'ai pas pu faire jamais, mais j'ai été une grande sœur pour les grands frères et les grandes sœurs Montréal à la place. Mais en fait, ce qui m'a amenée à m'intéresser à JAM plusieurs années après, c'est le fait que JAM a vraiment su s'adapter aux nouvelles réalités des familles desservies. Je vous en ai parlé tout à l'heure. Mm-hmm. Il y a beaucoup d'enfants qui évoluent dans un contexte familial plurilingue. Et puis, ça peut créer des préoccupations pour ces familles et puis de l'anxiété aussi pour les milieux qui les accueillent et qui les accompagnent. Et puis, pour ça, moi, j'admire beaucoup Patricia Bossy, qui est la directrice à la tête de... En fait, elle a été directrice à la tête de JAM pendant 15 ans. Et je considère qu'elle a vraiment su faire ce virage qui était plus que nécessaire. Elle a collaboré avec Françoise Armand, qui est une chercheure de l'Université de Montréal, avec qui j'ai moi-même longtemps collaboré. Donc, c'est ça qui m'a ramenée à JAM. Puis aussi, donc j'ai commencé à travailler à JAM, je ne vous l'ai pas dit, mais ça fait vraiment pas longtemps que je suis à JAM, il y a à peu près un an et demi j'ai commencé. Puis je ne viens pas du tout du milieu communautaire. Mais dès mon arrivée, je me suis vraiment sentie à ma place. J'étais entourée de femmes qui sont très souvent immigrantes. Mm. Et puis, elles sont compétentes et engagées. Et je me suis vraiment sentie bien dès mon arrivée. Puis, ce bel accueil, je le dois aussi à Audrey Archambault, ma prédécesseure à la direction de JAM. Mais c'est ça, je vous dirais qu'au-delà de la mission, là, c'est ce qui me tient vraiment à cœur, c'est le sentiment qu'on peut vraiment faire une différence auprès d'enfants et de leur famille.
Oui, mais je pense que toutes les personnes qui se succèdent au micro ont cette volonté de faire une différence, c'est juste qu'ils choisissent un terrain de jeu différent. Vous étiez dans quel domaine avant?
En fait, ça, j'ai travaillé avec Françoise Armand, qui est
ses travaux, ils portent
sur l'apprentissage de la langue seconde, mais elle est spécialiste. Vous pourriez aller sur Google, là, elle est vraiment partout, elle a gagné des prix, elle est spécialiste dans les interventions en milieu plurilingue et pluriethnique.
Qu'est-ce que vous pensez de... Parce qu'il y a eu souvent un débat dans les écoles aussi, à savoir on s'en tient au français versus l'anglais. Il y a des parents qui vont dire si on lui apprend d'autres langues, ça sera plus difficile de maîtriser sa langue d'origine. En même temps, il y a des compétences transversales qui se valent pour une ou pour l'autre. Qu'en dit la recherche là-dessus?
Ah, c'est... Il y a beaucoup de recherches depuis... En fait, longtemps et pas si longtemps, finalement. Et pendant un certain moment, la recherche se contredisait un petit peu parce que...
Comme
beaucoup de recherches. Mais c'est parce qu'elle a été faite dans différents contextes. Mm-hmm. Et c'est vrai que ça change. En fait, chaque expérience d'apprentissage des langues va varier en fonction du contexte, en fonction de la personnalité de la personne, des langues qu'elle connaît déjà et aussi des liens familiaux qu'elle va maintenir ou pas. La langue, c'est à la fois un outil et puis un lien social. Et il faut vraiment avoir ces deux prismes en tête. Et on ne peut pas empêcher une personne de vouloir maintenir vivant sa langue si c'est cette langue-là qui va garder le contact avec la famille, avec la culture d'origine. C'est très important. Mais pour d'autres personnes, ça l'est beaucoup moins. Donc, il faut juste avoir en tête que ces expériences sont vraiment très variées. Puis, il faut respecter tout le monde pour chacun, pour leur choix.
Oui. Mais j'apprenais dans le dossier de recherche qu'il y a 7000 langues parlées au monde.
Oui, puis en fait, ça dépend vraiment de comment elles sont répertoriées. C'est sûr qu'il y a des langues aussi qui naissent et il y a des langues qui disparaissent. Je ne suis pas linguiste en passant, mais c'est certain que je m'intéresse beaucoup aux langues et à la diversité linguistique.
Mais au Québec, on serait plus en termes de langues parlées?
Environ 200. À peu près.
Oui.
Puis ça surprend beaucoup de monde parce que c'est certain que le français, c'est la langue officielle, mais il y a des personnes qui viennent de partout dans le monde, sans compter toutes les langues autochtones qui sont parlées au Québec.
Oui. Puis en fait, on se situe un petit peu dans la même mouvance. On veut garder notre langue française très vivante et c'est sûr que les peuples des Premières Nations veulent aussi garder leur langue vivante. Donc, c'est un tout autre débat. Je sais que vous faites aussi des animations dans la communauté.
Oui, on fait. C'est ça, je vous ai beaucoup parlé du programme phare, qui est notre programme de jumelage, mais on offre aussi plusieurs animations auprès des tout-petits.
Des
0-5 ans. On offre aussi beaucoup de formations. Je vous l'ai dit tout à l'heure, on forme les milieux communautaires et éducatifs. Et on offre aussi des ateliers pour les parents. Parce que parfois, on a besoin de s'outiller, d'échanger entre parents.
Comment aider son enfant ou carrément comment soi-même lire davantage?
C'est très varié.
Parce que j'imagine, en tout cas, je sais que c'était comme ça chez nous, en voyant nos parents lire, on est plus porté à lire aussi.
Oui, je vous dirais que c'est ça aussi l'impact du jumelage à domicile. Mm-hmm. Le bénévole arrive avec sa façon d'être, avec les livres, avec son enthousiasme et le plaisir qu'il a à lire. Donc, ça se transmet au sein de toute la famille. Mais là, les ateliers, en ce moment, on est en train d'organiser des ateliers de préparation à la maternelle,
oui,
par exemple.
Oui, j'ai vu ça.
Donc, c'en est un exemple.
Qu'est-ce qu'on y apprend dans ce type d'atelier?
Bien évidemment, les bienfaits de la lecture,
oui!
Mais aussi tout ce qui est la gestion des émotions, les routines de vie.
Il y a
toutes sortes de choses. On fait appel à différents partenaires. Notamment des enseignantes.
Donc, le côté, justement, plus holistique dont on parlait,
oui,
d'entrée de jeu.
Exactement. Donc, on a des enseignantes en maternelle qui viennent parler aux parents de qu'est-ce que ça va être la maternelle.
C'est quoi le pourcentage des enfants qui arrivent en maternelle et qui ont déjà des grandes compétences linguistiques?
Je n'ai pas forcément un pourcentage. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a certains enfants qui arrivent avec déjà une très grande longueur d'avance parce qu'ils savent c'est quoi un livre, ils savent comment le tenir, ils savent comment tourner les pages. Donc ça fait une grande différence au début de l'apprentissage, mais ça se rattrape pour ceux qui n'ont pas bénéficié de cette expérience-là.
En terminant, vous êtes financé par quel type de source?
Oui, je vous l'ai dit, on est financé par le ministère de l'Éducation,
oui,
par le PACT, c'est le programme d'action communautaire sur le terrain de l'éducation. Ça aussi, c'est grâce au travail acharné de la directrice Patricia Bossi qu'on peut compter sur ce précieux financement à la mission. On est aussi financé par Centraide. C'est un financement qui est vraiment très, très apprécié. Mais je vous dirais que pour le reste, on répond à des appels de projets de différents bailleurs de fonds, donc la Ville de Montréal, la Direction régionale de la santé publique, parfois des fondations. Moi, j'aime vraiment beaucoup ça parce que c'est vivant, des projets, ça fait évoluer. Mais je vous dirais que c'est un peu essoufflant à la longue.
Oui, tout à fait. Erika, je vous remercie de votre passage au Héros Anonyme. On invite les auditeurs à découvrir tout le merveilleux travail que vous faites sur votre site Internet. Merci d'avoir été avec nous.
Merci beaucoup.
Et c'est ainsi que se conclut l'épisode des Héros Anonymes. Merci à Catherine Bourderon à la recherche, Mathieu Tessier en régie, Jean-Sébastien Laliberté, chef diffusion technique. Merci à vous, chers auditeurs, de nous écouter sur nos différentes plateformes. Et le beau temps est revenu, alors je vous invite à aller sur les plateformes de balado-diffusion et à peut-être écouter des épisodes précédents. Ça sera une façon de faire votre magasinage de causes sociales, que ce soit en les soutenant par un don ou encore par votre temps. Et peut-être, tiens, nous aidez-nous à faire connaître tous ces épisodes qui sont disponibles sur canalm.vusezvoix.com. Ici Chantal Doré, je vous dis une agréable semaine et on se retrouve la semaine prochaine. Bye bye!